journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. Pour participer en direct, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et si vous nous écoutez partout ailleurs dans le monde, composez le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur la page Facebook, facebook.com/journal des auditeurs. Aujourd'hui, dans le JDA, le rapprochement entre Paris et Kigali. Après deux entretiens à New York et à New Delhi avec Emmanuel Macron, cette visite de travail du président rwandais Paul Kagame à Paris marque une nouvelle étape dans les relations entre Paris et Kigali, des relations tendues en raison de l'implication de la France dans le génocide de 1994 contre les Tutsis. Mais ce sujet a été peu évoqué entre les deux présidents. Emmanuel Macron a parlé des blessures du passé, annoncé la formation d'un groupe de chercheurs pour faire progresser la connaissance sur l'un des pires drames de la fin du XXe siècle. De son côté, Paul Kagame a plutôt défendu la candidature de la ministre des Affaires étrangères rwandaise, Louise Mushikiwabo, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Une candidature soutenue par la France, annoncée hier Emmanuel Macron. Alors que pensez-vous, chers auditeurs, de ce rapprochement? Peut-on parler d'une nouvelle approche et d'une nouvelle époque, comme l'a fait Paul Kagame? Nous en parlerons justement dans quelques instants avec notre confrère Albert Oudatsimbourwa, journaliste, directeur de la radio-télévision Contact à Kigali. Je rappelle le numéro pour participer, 01 55 07 58 00. Exceptionnellement, toujours pas de message du répondeur qui est en réparation. Donc, sans plus tarder, le JDA du jour.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Aujourd'hui, dans le JDA, le rapprochement entre Paris et Kigali, nous en parlons sans plus tarder avec notre confrère Albert Oudatsimbourwa, journaliste, directeur de la radio-télévision Contact à Kigali. Albert, bonjour.
Bonjour Stéphanie et bonjour aux auditeurs et auditrices.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Lors de la conférence conjointe hier entre Emmanuel Macron et Paul Kagame, il a été peu question finalement de la responsabilité de la France dans le génocide de 1994, mais plutôt des points de convergence entre les deux présidents concernant le multilatéralisme, la réforme de l'Union africaine et la candidature de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF, une candidature soutenue donc par la France. Première question sera celle-ci, Albert. Est-ce que finalement il y a eu un deal entre les deux présidents, l'ouverture d'une nouvelle page contre un soutien international?
Je ne crois pas que ça se... Je formulerai ça comme ça. Je crois qu'il y a, une rencontre entre deux hommes politiques qui quelque part, ont beaucoup de points communs, de convergence plutôt, comme je l'ai dit à d'autres médias, dans d'autres médias, il faut quand même qu'on se rende compte que Emmanuel Macron, l'âge qu'il avait en 94, et le fait qu'il vient comme une comète de nulle part, qui n'a pas le poids des casseroles des autres familles politiques qui traînent la France-Afrique depuis sa création. Il parle couramment anglais, donc apparemment ne souffre pas du complexe de Fashoda. Je veux dire, c'est une nouvelle vague, là. D'autre part, je ne sais pas, pour tous ceux qui ont suivi toujours Kagame en général, déjà au Rwanda, la première chose qu'a fait le président Kagame au lendemain d'avoir stoppé le génocide, c'est de voir comment le Rwanda allait rentrer dans le futur. Je veux dire, il s'agissait de trouver une façon de réconcilier déjà les gens, pour sinon, œil pour œil, le Rwanda serait aveugle. Donc, ça fait partie, je crois, du brand, comme on dit en anglais, de la façon Kagame.
La marque de fabrique.
La marque de fabrique d'être pragmatique et de se dire comment est-ce qu'on va dépasser ce genre de problème. Je crois qu'il l'a dit aussi à d'autres présidents français avant Emmanuel Macron, de dire le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir. On peut gérer le passé, mais regardons surtout vers l'avenir. Donc souvent, quel a été le point de chute chaque fois qu'on est retombé en arrière, je dirais, c'est que quand les courants qui étaient aux affaires dans les années 90 essayaient de venir, avec une épée de Damoclès, soi-disant, que la justice allait sévir sur le Rwanda. sur Paul Kagame et sur son parti et puis les gens qui avaient fait la lutte avec lui et sur lequel Kagame a aussi montré que lui aussi, il pouvait montrer les dents. Parce que, je veux dire, le Rwanda peut aller jusqu'à aussi inculper et faire tout ça. Et il le peut parce que Kagame, dans tout ce temps-là, il est clean. Chez lui, il n'a pas de casserole. Il n'a aucun squelette dans les placards qu'il aurait...
contrairement à ce que vous essayez de faire croire certains juges d'instruction.
Oui, mais surtout français. Aussi, comme d'autres... Souvent, on a d'autres présidents africains qui voudraient dire quelque chose, mais en fait, ils ont tellement de squelettes dans les placards et de connexions dans des France-Afrique qu'ils doivent quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas le cas de Kagame.
En tout cas, il ne doit rien à la France,
c'est
sûr.
C'est clair.
Voilà. Ouais, on va écouter dans quelques instants les auditeurs hein, qui sont nombreux à vouloir participer. Mais rentrons-nous 5 minutes sur la candidature de la ministre des Affaires étrangères rwandaise, hein, Louise Mushikiwabo, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. En 2009, le Rwanda avait choisi l'anglais hein, comme langue officielle, sans pour autant quitter la francophonie. Hein, c'est ce qu'a rappelé le président rwandais hier. Comment vous analysez cette candidature à l'OIF? Est-ce que c'est une façon pour le Rwanda de chercher à peser de plus en plus sur la scène internationale?
Même si... Moi, je crois que de toute façon, par la consistance de ce que le Rwanda a parcouru comme chemin depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda, de toute façon, s'est placé sur une carte internationale. Ça, y a pas... Ceux qui ne le voient pas veulent simplement rester aveugles, à l'évidence même. Mais il y a autre chose aussi, c'est que depuis quelques années, le Rwanda a aussi un poids sur le continent. Et Emmanuel Macron a quand même aussi dit, lors de cette conférence de presse conjointe, c'est qu'il faut quand même considérer l'Afrique comme le vrai centre de gravité de la francophonie. Alors, il faut aussi avoir les gens capables. Et je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ça fait quelques années qu'elle a démontré que c'est une personnalité, que c'est un caractère aussi politique et qui a une envergure internationale. Donc, je ne crois pas simplement que la demande viendrait du Rwanda. Je crois qu'il y a aussi une façon de trouver des lieux communs à partir de Paris, qui eux-mêmes, j'imagine que M. Emmanuel Macron, le président, doit être assiégé par tous ces courants du style Védrine, Juppé, la turquoise, qui disent trahison, etc., etc. Alors, trouver une façon de travailler ensemble, parce que je trouve que quelque part, ils ont franchement des convergences même de caractère. Donc, et de proposer une femme...
C'était déjà le cas, la personne de Michaël Jean.
D'accord, mais Michaël Jean, on ne l'a pas vraiment vu passer. Hein. Je veux dire, elle n'avait pas vraiment beaucoup... Je ne sais pas, en tout cas, mais depuis qu'elle a été élue, je ne crois pas que l'OIF ait fait parler de... Ou alors on a raté quelque chose au Rwanda. Mais vu du Rwanda, ce n'était pas très pimenté. Je crois que Louise Mushikiwao, c'est une personne qui a une certaine personnalité... Oui.
On verra justement, on va écouter les auditeurs, mais on verra, vous nous direz tout à l'heure quelle peut être la marque, hein, justement, Louise Mushikiwabo à la tête peut-être de l'OIF, bien que c'est une élection qui a lieu à l'automne prochain, et ce n'est pas encore fait, mais on va se tourner sans plus tarder vers le standard. Il y a Kevin qui nous appelle depuis Kinshasa, je crois. Kevin, bonjour.
Depuis Lubumbashi, bonjour.
Ah, pardon, oui, c'est vrai, j'ai pas retenu, excusez-moi, Kevin. Oui, Lubumbashi d'ailleurs, tout à fait. On vous écoute, Kevin. Vous aviez une question. Allez, vas-y, on vous écoute.
Tout à fait. Tout à fait. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a à la base de ce rapprochement entre Emmanuel Macron et Paul Kagame, parce que ça fait un grand temps que ce rapprochement n'a pas eu lieu. En fait, qu'est-ce qui les a enchaînés?
On vient un peu d'y répondre, Albert. C'est ce que vous disiez, une vision commune. Qu'est-ce qui fait Il y a eu ils se sont vus deux fois à New York et à New Delhi. Ils se sont plu. Ils ont vu qu'ils pouvaient travailler ensemble.
En fait,
c'est un rapprochement des deux.
Je veux dire, normalement, oui, c'est un rapprochement des deux. Je crois que le Rwanda reste toujours ouvert pour un rapprochement. Emmanuel Macron, je crois qu'il est aussi très réaliste parce que je dirais que la France aujourd'hui n'a plus vraiment les mêmes moyens qu'elle l'avait il y a 40 ans.
C'est la question que j'allais vous poser. Lequel a le plus besoin des deux? Est-ce que c'est Paris qui a besoin de Kigali, finalement?
Je crois que c'est une convergence d'intérêts. Ça veut dire que... Parce que Kigali, aujourd'hui, a aussi démontré que sur le continent, l'engagement du Rwanda sur le continent porte aussi des fruits. Je veux dire, il y a pas très longtemps, autant de pays africains ont signé donc...
La zone de libre-échange.
Voilà. Et il y a tellement de choses qui sont en train de se faire sur le continent, sous l'impulsion du Rwanda. Donc, je crois que si le Rwanda déclare clairement aussi qu'il n'y a pas nécessairement une hostilité naturelle entre le Rwanda et la France, et qu'au contraire, le Rwanda aussi reconnaît la place de la France dans le monde, ce n'est pas ça le problème. Mais il ne le fait pas en tant que subalterne. Ça, le Rwanda n'est pas comme ça. La marque comment on disait ça en français là?
La marque de fabrique?
La marque de fabrique de Kagame, c'est d'être d'égal à égal.
Alors justement, ça répond à la question qu'Apollinaire sur Facebook. Apollinaire nous écrit depuis Djamena au Tchad. Il dit « Bonjour JDA, la relation entre Paris et Kigali vise seulement à maintenir Paul Kagame au pouvoir et ensuite protéger les intérêts de la France. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous répondez à Apollinaire ? C'est vrai que Paul Kagame a entamé une réforme constitutionnelle qui lui permet de rester jusqu'en 2034. Ça peut avoir un lien avec son rapprochement avec la France?
Je crois que... Certains de mes frères africains, des fois, vivent dans un monde de fantasmes aussi. Parce que je veux dire, Kagame a stoppé le génocide. Il a aussi stoppé l'armée française qui était venue aider les génocidaires. Et depuis 1994, il est là. D'abord en tant que vice-président, il a d'abord sécurisé le Rwanda, la région. Et quand il est devenu président, en développement qu'a fait le Rwanda, c'est depuis que lui, il est président. Donc, en 14 ans, je ne crois pas qu'il ait besoin de quelqu'un, de Paris, de quoi que ce soit, pour se maintenir. En fait, je crois que peut-être les pays d'Afrique de l'Ouest ne connaissent pas vraiment l'Afrique de l'Est. Mmh. Et je veux dire, les pays en Afrique de l'Est ne dépendent pas d'une capitale française. Et les hommes politiques en Afrique de l'Est ou australes ne dépendent pas de l'Occident pour être là. Donc, Kagame n'a pas besoin de Macron et Macron n'a pas besoin de Kagame. Mais les deux ont vu que sur la scène internationale, qu'ils vont y gagner beaucoup plus à collaborer.
C'est très clair. On va écouter Serge. Serge, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Serge. Alors vous avez dit au standard, c'est une bonne occasion pour le Rwanda, c'est-à-dire développer.
Un grand bonjour à Albert d'abord.
Bonjour Serge. Voilà. Bonjour, bonjour.
je suis très content et évidemment j'adhère à tous les points qu'Albert a défendus. Mais en tant que
vous connaissez Albert, non?
Oui.
Ah d'accord.
J'ai pas entendu. C'est qui?
C'est Serge Niambo.
Ah oui. Bon, ben évidemment. Merci.
Bienvenue
merci,
Serge. Bien raison. Bienvenue. Oui. Bienvenue. Alors, on vous écoute, Serge.
En tant que Rwando-Français, nous avons toujours besoin d'un pont entre nos deux pays. Et c'est vraiment une très bonne occasion pour nous de voir quand même une sorte de rallumage des bougies de la relation bilatérale. Parce que quand même, ça faisait longtemps que j'étais dans ce phonogramme plat. Mais... d'un côté aussi de toute la dynamique autour avec la main tendue du président français, moi je pense quand même qu'il faut encourager ça, mais en même temps, ne soyons pas naïfs. Ce que je disais tout à l'heure à votre standard, vous avez introduit avec une phrase qui dit que ça fait 7 ans qu'il n'est pas reçu à l'Élysée. Je tiens quand même à noter qu'il ne souscrit pas à la liste de tous les présidents africains qui éprouvent un besoin existentiel d'être invité et reçu à l'Élysée systématiquement. Là, franchement, Kagame n'en fait pas partie. D'un autre côté, il faut quand même voir, comme disait Albert, l'âge du président français.
40 ans.
On ne va pas lui mettre sur le dos l'implication donc, de ses prédécesseurs il y a 24 ans qui étaient à l'Élysée. ce qui nous ramène à ces derniers qui sont quand même encore là et qui peuvent essayer de jouer des mains, des pieds pour essayer d'influer sur cette démarche que fait le président français. Ils sont quand même sclérosés. Ça fait partie d'une vieille France, un vieux monde qui est vraiment aux antipodes des ambitions du nouveau président français. Donc, la balle est dans son camp, la balle est dans le camp français. Paul Kagame accepte de venir. Il y a aussi l'histoire de la candidature de notre cher Louise Muchituabo, qu'il faut quand même encourager, sachant qu'il n'est pas la seule candidate. Donc, on espère qu'elle gagne, mais bon, les jeux ne sont pas encore faits. Mais pour l'instant, il faut quand même saluer cette rupture, ce côté disruptif du président français sur le dossier rwandais.
Vous, ça vous fait plaisir, ça vous fait plaisir. Je veux dire, à titre individuel, finalement, vous êtes présenté comme un franco-rwandais. Finalement, vous espériez ce rapprochement, si j'entends bien.
Non, je suis rwando-français.
J'ai entendu, j'ai failli ma langue a été plus rapide que moi. j'avais entendu la précision. Vous êtes donc rwando-français, Serge. C'était important ce rapprochement?
Bah, absolument. Parce que quand même, nous avons toute une génération qui grandit entre. C'est la partie occultée, au fait, de la relation franco-rwandaise. Il y a le peuple français, il y a des gens bien, il y a tout un patrimoine culturel, des échanges qui ont eu entre des familles, entre des mariages, toute une génération qui est occultée dans le tandem franco-rwandais. Ces gens ont besoin des relations bilatérales entre les deux pays. Ils ont besoin que la vérité historique soit rétablie. Il y a des rescapés du génocide contre les Tutsis au Rwanda qui sont actuellement français, qui sont citoyens français, et qui travaillent énormément et qui sont sur deux pays. Donc nous avons besoin vraiment de ce pont, ne fût-ce qu'à titre humain, culturel, la politique mise à part. Donc c'est quand même toujours un point positif d'avoir des points de convergence qui s'orientent vers le rétablissement des relations bilatérales. Mais si la France veut le faire de façon pragmatique, comme disait le président, en croyant qu'on va faire fi de la mémoire, du travail de mémoire que nous faisons d'arrache-pied pour quand même ne pas faire oublier ce qui s'est passé, pour établir les responsabilités, dénoncer la France comme terre d'asile quand même de beaucoup, beaucoup de génocidaires et des négationnistes, là, le pragmatisme ne va pas vraiment, ça ne va pas prendre, la mayonnaise ne va pas prendre.
Vous êtes vigilant, vous dites finalement, ce n'est qu'une étape, je crois que c'est ce qui s'est dit aussi hier entre les deux présidents. Je vous remercie beaucoup, Serge, finalement. Ce n'est qu'une étape dans le rapprochement, le rétablissement des relations entre Paris et Kigali. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, Albert ?
Non, je crois qu'il a bien fait de peut-être rappeler ça, parce que je crois que la personne qui, avant ça, qui je crois est en...
En RDC, à Lubumbashi, oui.
Ce qui a envoyé un texte...
Ah oui, tout à fait. Apolline. Djamena.
Ah, Djamena, oui, tout oui. Je veux dire, le Rwanda n'est pas un pays CFA. Je veux dire, elle contrôle son économie toute seule. Ce n'est pas le Trésor de France. Ses fonctionnaires sont payés par un budget dont... En 1994, était dépendant 100% de l'aide extérieure. Et aujourd'hui, ils sont indépendants à 84%. Oui, oui, non, mais le budget est 84%. Donc, il reste encore 16%. Et le but, c'est de ne plus dépendre de ça. Donc, il y a un développement. Le Rwanda n'attend pas la France. Mais le Rwanda est aussi réaliste. Un homme comme Kagame voit le monde. Et donc, je veux dire, mais il n'y a pas que la France.
Le monde tel qu'il bouge actuellement, je veux dire, avec la Russie, ce qui se passe en Syrie.
Voilà. Mais aussi, il n'y a pas que la France, je veux dire. Toutes ces années-là, bon, il y a eu des bonnes relations avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc., etc. En plus, tout ça fluctue, mais ça, c'est pour tout le monde. Donc, c'est d'intérêt commun, je crois.
On va avancer un peu parce qu'il nous reste malheureusement une dizaine de minutes d'émission. Il y a Abdulba qui nous dit sur Facebook, bonsoir, de quoi Paris se mêle de la réforme de l'Union africaine. J'espère que Macron ne pense pas à nous dicter ce qu'on doit changer dans l'Union africaine. Paul Kagame est actuellement président de l'Union africaine. Je voulais évoquer la RD Congo avec vous, Albert. Dans son discours hier, Emmanuel Macron a dit ceci. Nous avons aussi évoqué la situation en République démocratique du Congo. Je suis attaché à la position de l'Union africaine et des pays de la région. Le problème, on a du mal un peu à savoir actuellement la position de l'Union africaine concernant la RDC. Donc je vous pose cette question. Quelle est la position du Rwanda concernant la crise politique en République démocratique du Congo ?
Je dirais... Je ne vais pas dire le contraire de ce que le ministre des Affaires étrangères, Louise, a dit d'ailleurs sur France 24. Je dis, le problème, c'est les Congolais à eux-mêmes d'avoir une position. Ce qui est le plus important pour les 9 pays, les 9 voisins du Congo, c'est d'essayer de faire qu'il n'y ait pas un débordement violent vers les voisins.
Pas forcément d'essayer de pousser Kabila vers la sortie.
Mais ce n'est, non, je veux dire, pourquoi est-ce que... c'est une vieille histoire, ce genre d'histoire, de ramener comme si il y a des complots qui se font dans les pays voisins. Non, pour l'instant, le grand problème...
Le Botswana, par exemple, a une position très claire au sein de la SADC en disant que le président Kabila devait respecter l'accord signé en décembre dernier. Est-ce que le Rwanda
Ça représente uniquement le Botswana. Je ne crois pas que... Je veux dire, le Botswana ne vit pas à côté du Congo non plus. Et les pays à côté du Congo, eux, ce qui compte, c'est qu'il y a des réfugiés congolais au Rwanda. Il y a des réfugiés congolais en Angola. Mmh. Il y a des réfugiés congolais en Ouganda. Et c'est ça le problème. Alors que donc, de toute façon, la solution des problèmes congolais, c'est les Congolais eux-mêmes. Et je crois que ça, c'est la position tout le temps du Rwanda et des voisins. Mais aujourd'hui, quand Kagame doit se prononcer là-dessus, c'est parce qu'il est aussi le président de l'Union africaine. Donc, mais lui, il ne peut que soutenir des initiatives qui sont régionales.
Initiative régionale, donc menée par la conférence des Grands Lacs. Parce qu'il y a plusieurs organisations sous-régionales dans la région, on est bien d'accord. Le Rwanda, par exemple, n'est pas membre de la SADC, il a été refusé. Il y a la conférence de la CIGRL, la conférence de la région des Grands Lacs. Mm-hmm. Il y a également donc, l'Union africaine. Qui est à la commande dans cette région ? Quelle organisation pèse plus que l'autre ?
Normalement, c'est comment on dit en français, la CIGRL ou LR ou RL, en tout cas ICGLR en anglais, et l'Union africaine, l'Union africaine soutient, mais ce sont les normes, et même la SADC pourrait intervenir de façon plus, comme on a l'Afrique, l'East African Community, comme on a la CDAO, etc. Donc ça c'est normalement la politique de l'Union africaine, c'est de donner en fait les pleins pouvoirs aux organismes régionaux. Mais pendant longtemps, sous l'Angola, en fait, la CIGRL n'avait pas bougé beaucoup. Aujourd'hui, je crois qu'ils veulent bouger dans un certain sens. Mais encore une fois, en fin des fins, c'est aux Congolais que ça va revenir.
On va leur donner la parole, parce que je sens bouillir derrière leur téléphone au standard, mais on va écouter Paul, il nous reste... quelques minutes, Paul qui voit plutôt d'un mauvais œil le rapprochement entre Kigali et Paris. Paul, bonjour.
Oui, allô, bonjour Madame Stéphanie et bonjour tous les auditeurs d'Africa numéro 1.
Bonjour Paul.
Oui, comme je venais de dire que je vois de mauvais œil le rapprochement entre Kigali et Paris. Pourquoi je l'ai dit ? C'est parce que vu tout ce qui se passe chez moi au Congo, en République démocratique du Congo, le promoteur de tout ça, c'est l'armée rwandaise conduite par M. Paul Kagame. Monsieur Paul Kagame qui porte le sang du peuple congolais dans ses mains et Monsieur Macron, le président de la France, qui invite un monsieur qui a tué plus de 10 millions de Congolais. Parce que j'ai dit, Monsieur Kagame a tué 10 millions de Congolais, c'est parce que tout
ces rébellions... Paul, faut toute proportion garder. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des faits ? Ça nous arrangerait pour la discussion.
Madame,
vous comprenez pas. Vous vous dites, Paul Kagame n'a rien à faire à Paris. C'est ce que vous dites, Paul.
Je suis dans les faits parce que toutes les rébellions sont financées par le Rwanda. Les rébellions sont financées par le Rwanda. Et aujourd'hui, Madame Michikwabo, qui est candidate pour la présidence ou le secrétaire de l'organisme la francophonie. Mais à ce que je sache, le Rwanda est sorti de la francophonie depuis.
C'est un pays alors justement, le Rwanda n'est pas sorti de la francophonie, il a rejoint le Commonwealth tout en restant dans la francophonie.
Voilà, c'est un pays anglophone, il défend les Anglais. Je ne vois pas comment est-ce qu'il va venir défendre la francophonie. Donc par là, je veux dire qu'il y a... un jeu obscur entre la France et le Rwanda contre le Congo. Parce qu'aujourd'hui, le Congo...
Vous l'avez dit, Paul. On va demander à Albert ce qu'il en pense. Paul nous dit qu'il y a un jeu obscur entre la France et le Rwanda sur le du Congo. Il y a un autre auditeur qui dit ça sur Facebook, qui évoque le cobalt qui est exploité par le Rwanda sur le dos de la RDC, nous dit cet auditeur. Il y avait Alain tout à l'heure au téléphone qui voulait vous demander si le Rwanda exportait du tantalite. Vous êtes bien placé, vous connaissez bien cette histoire rwando-congolaise. On sait, il y a eu effectivement des alliances avec Laurent-Désiré Kabila autrefois. Aujourd'hui, certains accusent Paul Kagame d'être à l'origine de la situation désastreuse de l'Est de la RDC, notamment avec la multiplication des groupes armés. Certains accusent le Rwanda d'exploiter les richesses de la RD Congo. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est un monde de fantasmes avec des gens qui peut-être ça les arrange de ne pas devoir aller au fond même des choses. Premièrement, avant que le Congo soit aujourd'hui le Congo, il fut pendant longtemps le Zaïre. Mobutu était le dictateur qui, à la fin, tout le monde voulait voir partir, parce que pendant longtemps, les Zaïrois commençaient à en avoir marre. Mais maintenant, peut-être ils oublient tout ça, qu'il fut à un moment un dictateur. Et le dictateur a soutenu un autre dictateur avec le soutien de la France. C'est le Zaïre qui a envahi, qui a envoyé des troupes pour soutenir un régime qui allait devenir génocidaire de toute façon.
C'est le régime d'Abiarimana.
Donc ils se sont d'abord retrouvés là. Et en 1994, à la demande de la France, ont ouvert la porte aux génocidaires pour trouver un havre de où ils pouvaient se réfugier, les génocidaires. Et ils les ont laissés à la frontière. Ils ne les ont jamais désarmés.
Contre les règles de l'ONU, non ?
Contre les règles de l'ONU. Pendant 2 ans, le Rwanda a dit, s'il vous plaît, déplacez ces gens-là et désarmez-les. Pendant 2 ans, entre 1994 et 1996, ils faisaient des incursions et continuaient à créer un climat d'insécurité très poussé au Rwanda. En 1996, Kagame, encore une fois, a dit, bon, si vous ne le faites pas, je vais le faire moi-même. Il est rentré dedans.
Il y a eu la Deuxième Guerre, la Première Guerre mondiale
c'est
du
la,
Congo.
C'est la première... Bon, ce n'est pas tout à fait directement une Première Guerre mondiale, mais effectivement, le Rwanda au fur et à mesure que le Rwanda avançait, parce que les autres reculaient, il a voulu que ce soit quelque chose qui se fasse régional. Et il y a eu le soutien de l'Ouganda, il y a eu le soutien de l'Angola de l'époque. Et en fait, le dictateur Mobutu a été renversé. Maintenant, revenons aux richesses. Pendant toutes ces années, depuis l'indépendance, depuis Léopold jusque dans les années 90, les années du Zaïre, quand on parlait de la richesse du Congo, on parlait du Katanga, du cuivre. On parlait du Kasaï, les diamants et tout ça. On parlait de tout ça. Pendant que l'Est était en fait le grenier du Zaïre. Pendant tout ce temps-là, c'était en fait là qu'il y avait les plus grands troupeaux et on nourrissait Kinshasa. L'Est du Congo, évidemment identique, parce qu'il n'y a pas un crayon qui a fait que on met à l'est du Congo toutes les richesses possibles et que à l'ouest de ces frontières, que ce soit en Ouganda, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Burundi, que ce soit même plus bas. Et c'est là qu'on a trouvé les nouveaux minerais des nouvelles technologies. Et tout d'un coup, tout est devenu... Et donc, effectivement, au Rwanda, il y a le même style de minerais. Et que le Rwanda, aujourd'hui, exporte, d'ailleurs... Et avec une traçabilité, parce que ça devait être très clair. Donc tout ça, ça reste des fantasmes des gens. Maintenant, entre-temps, le fait qu'à cette époque-là, le Zaïre a permis à ces génocidaires de s'incruster dans les sociétés de l'Est du Congo, elles ont amené un état d'esprit, un changement de culture, des choses qu'on n'avait jamais vues, même du temps de la dictature de Mobutu. On n'avait jamais vu violer des bébés, des hommes, des vieillards, des vieilles dames.
Une région malade, selon vous ?
Ah oui, c'est une société complètement malade.
Qui peinera à se relever.
Et évidemment, une absence d'État complètement. Donc, chaque milice... Évidemment, comme les plus grosses milices, c'est les FDLR, mais ce sont les génocidaires. Et on voit Rwanda et directement, on fait une connexion Kagame. Parce que Kagame est au Rwanda. Mais en fait, les gens ne voient pas que le grand malade, ce sont ces populations-là, et parce qu'ils n'ont plus pas de protection.
C'est très clair, on va finir sur cette question. Il y a Thierry qui disait au standard, on doit parler autre chose du génocide. Il y a plus important pour le Rwanda. Et Abdelwassi depuis Montréal qui nous disait la France veut calmer les ardeurs. Voilà ce que nous disait Abdelwassi, je ne sais pas ce qu'il voulait entendre par là. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Albert d'être venu jusqu'à nous.
Merci aussi.
Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de la radio-télévision Contact à Kigali. Bonne journée puis bon retour du côté du Rwanda.
Merci.
C'est la fin donc de cette émission, elle sera rediffusée ce soir à 19h20, heure de Paris. Merci à tous de votre participation. On se donne rendez-vous demain vendredi pour la libre antenne du JDA. Nous pourrons revenir largement sur ce sujet. N'hésitez pas à vous inscrire d'ailleurs en nous envoyant un mail. L'adresse mail de l'émission, c'est jda@africa1.com, jda@africa1.com. En attendant de vous retrouver demain, prenez grand soin de vous et des autres surtout, c'est important, à l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique radio africaine. À demain.